Docteur Ted Hildebrandt, OT Histoire, Lit. Et Théologie, Conférence 16.
Copyright Symbole Copyright 2020, Ted Hildebrandt. Il s'agit du Docteur Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, Littérature et Littérature de l'Ancien Testament. Cours de Théologie, leçon numéro 16, sur Balaam et le Livre des Nombres et le renouvellement de l'Alliance et les concepts fonciers dans le livre du Deutéronome. Aperçu du quiz 0002-28. Cours, commençons. Je vais faire circuler ces feuilles de présence. Pour jeudi, sur quoi travaillez-vous? Le livre des juges et Ruth. Là. Il n'y a pas de notre père Abraham. Il y a un article et quelques versets à mémoriser. Article? Les versets à mémoriser, les juges et Ruth connaissent les histoires et tout ça. Ce sera donc à venir pour jeudi. Aujourd'hui, nous allons terminer le livre des Nombres et entrer dans le livre des Deutéronomes, puis nous aurons un autre cours sur le Deutéronome. Je pense que c'est là que nous en sommes. Bienvenue dans le cours sur l'Ancien Testament, et un mot de prière. Et ensuite nous y entrerons. Père, nous te remercions pour ta bonté envers nous et surtout en Nouvelle-Angleterre. L'automne, c'est tout simplement incroyable les beautés qui sont à l'extérieur. Père, tu nous as donné yeux pour voir la multitude de couleurs des feuilles changer. Tu nous as donné des nez. Sentir les grandes odeurs de l'automne, et les aiguilles qui tombent, et les oreilles pour entendre. Des amitiés à partager sur ce campus. Nous vous remercions pour vos nombreuses bontés ainsi que ta grâce nous est accordée chaque jour. Nous vous remercions pour la façon dont vous étiez miséricordieux envers les Israélites et les a disciplinés, mais les a pourtant amenés à votre loyal l'amour dans ton giron. Nous te remercions car tu es le grand berger d'Israël, et que tu aimes tes brebis et que nous sommes aussi tes brebis, Père, la brebis de tes pâturages. Nous te remercions pour le Christ, notre grand berger, le bon berger et c'est en son nom nous prions, Amen. Allons Y. Nous allons survoler cela parce que l'autre classe est un peu devant nous. Nous allons donc avancer un peu plus dans ce sujet. Machine translated by Google. 2. Rapidement. Leçon des nombres 2, 2, 9, 7, 48. La dernière fois, nous parlions du livre des nombres et nous étions travaillés sur le débat libre-arbitre / prédestination sur la question de savoir si Dieu peut changer son esprit et s'il a changé d'avis lorsqu'il a dit qu'il allait détruire Israël. Moïse prie et puis 8 versets plus tard, il ne les détruit pas comme il dit là au début. Il y a certaines leçons du livre des nombres que je veux chronométrer. Voici ce que je vois dans le livre des nombres, celui-là. Une personne peut faire une différence. Moïse prie et la nation est épargnée. Donc une personne peut faire une différence. Moïse fait une différence pour le peuple. La prière change les choses. La prière compte. Je ne considère pas la prière comme quelque chose que nous faisons pour obéir à ce que Dieu nous a commandé, de sorte que nous prions juste pour obéir. Mais non, nous prions parce que nous avons des choses sur le cœur. Nous voulons que Dieu interagisse avec nous d'une certaine manière. Moïse a prié et la colère de Dieu s'est retirée et Dieu a cédé. Naam, il a renoncé à ce qu'il allait faire. C'est donc important. Dans le livre des Nombres, vous avez un contraste entre la situation d'Israël. Infidélité, Israël veut toujours retourner en Égypte, Israël est toujours se plaindre à Dieu, et Dieu qui est fidèle. Ainsi, Dieu se révèle fidèle et Israël se révèle infidèle. L'infidélité d'Israël contraste avec le fidélité de Dieu. C'est un autre grand thème du livre des Nombres. Pardon et pourtant conséquence, nous sommes dans le livre des Nombres et Dieu dit, je leur ai pardonné, Moïse, comme tu me l'as demandé. Et pourtant là étaient encore des conséquences. C'est une chose intéressante, le pardon, mais il peut encore y avoir. Conséquences qui s'en suivent, 40 ans dans le désert. C'est une réponse à l'une des questions avec lesquelles nous nous débattions au fin, Dieu est-il dynamique ou statique? Ce que j'ai essayé de suggérer dans le livre des Nombres et ailleurs dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu est dynamique et non statique. Il interagit avec son peuple, il va et vient et il écoute la prière de Moïse. Machine translated by Google. 3. Interagit avec lui. Il est relationnellement interactif avec Moïse et avec son peuple. Dieu répond, je suppose que c'est une autre façon de le dire. Il n'est pas seulement l'initiateur qui dit, je vais le faire de cette façon, parce que j'ai décidé de le faire de cette façon, et c'est ainsi que je vais procéder. Il répond à leur interaction. Plainte versus lamentation, nous avons fait une distinction entre la plainte et la lamentation. Complainte. Permettez-moi de refaire cette distinction. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair dessus la première fois. Plainte et lamentation peuvent utiliser exactement les mêmes mots. Toi. Sache, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusqu'à quand, Seigneur? Tu m'oublies pour toujours. Ils savent tous les deux utiliser des mots très forts, mais se plaindre est un mouvement qui s'éloigne de Dieu et qui dit essentiellement, Dieu, jusqu'à quand t'oublieras-tu? Moi. Je sors d'ici, je ne veux plus de toi. Donc la plainte est un mouvement loin de Dieu en exprimant ses paroles. Lamentation est une lutte avec Dieu, disant, Dieu, s'il te plaît. Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Moi. Ne m'abandonne pas. Une lamentation est donc un mouvement vers Dieu, hein. La plainte est un éloignement de Dieu, utilisant souvent les mêmes mots. Ils sont des mots très forts, mais l'un est un mouvement qui s'éloigne et l'autre est un mouvement vers. Ce sont quelques grands thèmes que je vois dans le livre des Nombres et c'est pourquoi j'aime le livre des Nombres. Je pense que c'est un livre très théologique et il a beaucoup à nous apprendre. Voici maintenant l'un de mes favoris du livre des Nombres. Est une génisse rousse. Maintenant vous dites, Rildebrandt, ce n'est pas une génisse. C'est censé être une image d'une génisse rousse. Désolé, c'est le mieux que je puisse faire. C'est une vache rouge, mais celui-ci vient du Texas. Maintenant, vous dites, pourquoi vous embêtez-vous avec ces génisses rousses? Des choses. Israël, quand ils veulent nettoyer quelque chose, ils commencent par les choses qui ne sont pas purifiées. Comment nettoient-ils les choses? Vous nettoyez avec de l'eau et vous nettoyez avec du sang. Par exemple, si les Juifs veulent construire le troisième temple, ce sera probablement la troisième guerre mondiale car il y a une mosquée au-dessus. Plateforme ou un sanctuaire au sommet du dôme du rocher, mais si les Juifs construisent un temple, doivent-ils pouvoir purifier les instruments qui s'y trouvent? Ils ont. Machine translated by Google. 4. En ce moment, une menorah en or de 7 pieds et demi de haut, je l'ai vue de mes yeux. Une bonne menorah de 7 pieds et demi de haut est prête pour le troisième temple. Quoi? Arrive. Les rabbins l'ont approuvé, mais faut-il que cela soit purifié par le du sang de génisse rousse? Savez-vous qu'en Israël, cela ressort des Nombres? Chapitre 19, maintenant qu'ils ont une génisse rousse. Ils ont maintenant une génisse rousse en Israël. C'est en Galilée. Est-ce important pour le peuple juif d'avoir un drapeau rouge? Génisse. Balaam, introduction 7, 4 9 1 3, 22. Maintenant Balaam, j'aime le nom de ce type. C'est plutôt inquiétant. Pourquoi les Moabites engagent ce Balaam? Ceci est Nombre chapitre 22 à 24 et voici quelques passages célèbres. Vous avez probablement déjà entendu parler de Balaam. Pourquoi les Moabites veulent-ils embaucher Balaam? Que est-ce qu'Ogé et Sion ont à voir là-dedans? OG. Imaginez nommer votre enfant ainsi, l'enfant va à l'école, salut, je m'appelle OG. Il était roi. Des Amoréens, et Sion aussi. Israël efface ses deux rois. Que est-ce que cela a à voir avec Balaam? L'histoire ne s'articule pas très bien si vous ne le faites pas. Connaître un peu de géographie. Og et Sion étaient des rois amoréens qu'Israël détruisit. Que est-ce que cela a à voir avec le fait que Balaam ait été rappelé de Mésopotamie? Pourquoi Balik était roi de Moab, a-t-il envoyé jusqu'en Mésopotamie? Pour avoir Balaam, un maudit professionnel. Savez-vous ce qu'est un maudit, un professionnel? Maudit. Un curseur, il clignote en quelque sorte sur votre écran et monte et descend. Pas ça. Est un gars qui est en fait payé pour maudire. C'était un prophète payé pour maudire. Personne. Pourquoi ont-ils envoyé jusqu'en Mésopotamie? Le roi n'avait-il pas son? Vos propres lanceurs de sorts professionnels. Pourquoi ont-ils envoyé jusqu'en Mésopotamie? Je veux. Pour examiner cette question. Les Israélites étaient-ils les seuls à connaître Jéhovah? Les Israélites n'étaient pas les seuls à connaître Jéhovah comme leur Dieu. Nous avons vu Melchizedek déjà, et je voudrais suggérer que Balaam connaissait Jéhovah Dieu. Balaam connaît Jéhovah Dieu. C'est un prophète étranger de Mésopotamie, et il connaît Jéhovah, Yahweh. Cela dit, voici la carte. C'est quoi cette carte? Voici la Machine Translated by Google. 5. Pays de Moab. C'est un canyon. Il a environ 3000 pieds de profondeur. C'est presque comme prononcé comme le Grand Canyon. Vous montez et c'est tout droit pendant environ 3000 pieds. C'est un canyon de 3000 pieds qui constitue une frontière entre l'Oued Arnon et l'Oued Izred et le pays de Moab, qui est en dessous de Zred. Au-dessous de Zred se trouve Edom. À qui appartiennent Edom? Les descendants d'Ésaü. De quelle couleur est Ésaü? Rouge. De quelle couleur sont les rochers d'Edom? Rouge. Il y a un endroit appelé Petra. Ici, les rochers rouges de Petra. Ce sont les descendants d'Ésaü. Moebella. Moebé, Daba. À qui appartiennent les descendants de Moab? Fait. Quelqu'un se souvient de l'eau. Vous vous souvenez de l'eau et de ses filles dans la grotte. Il a produit Moab, de son père. Au fait, cette semaine, vous lisez des articles sur une femme moabite. Son nom est quoi? Ruth. Cela se passe ici même. Ruth est une moabite. Cela vient des descendants de l'eau. Voici Ésaü et voici l'eau. Émon est le un autre des descendants de l'eau. Moab et Émon, sont-ils liés à Israël? Moab et Émon, ce sont les descendants de l'eau, sont liés à Israël. Dieu a-t-il permis à Israël d'attaquer les Moabites et les Ammonites? Non, il pas. Les Israélites contournant Edom ici et montent vers le palais du roi. Ici, ils ne peuvent pas attaquer Moab et ils ne peuvent pas attaquer Émon. Ceux sont leurs frères. Ils sont venus ici, mais qui est ici? Les Amoréens. Les Amoréens viennent de l'ouest. Les Israélites sont donc intervenus ici et ont vaincu Sion et Og. Les rois des Amoréens. Ils s'emparent de ce territoire ici même. Où est Moïse? Va mourir. Moïse va mourir ici même, sur le mont Nebo. Est-ce que quelqu'un? Rappelez-vous comment il monte sur la montagne et Dieu lui montre le pays d'Israël. Du mont Nebo. Il surplombe le terrain. Au fait, Jéricho est juste ici. Afin qu'il allons traverser et prendre Jéricho. Moïse mourra ici même. Israël s'installe. Puis dans ce pays de Sion. Pourquoi le roi de Moab a-t-il peur d'Israël? Parce qu'il Je viens de conquérir Sion et Og et les Moabites ont peur maintenant que les Israélites vont venir vers le sud par ici. Alors le roi de Moab veut que Balaam maudit Israël. Balaam va monter ici et il va maudire Israël. Il va venir de Mésopotamie, il va descendre à Moab, et Machine translated by Google. 6. Moab va le payer pour maudire Israël. Israël sera installé ici même. C'est une sorte de géographie de cette situation avec Balaam. Le personnage de D. Balaam, est-il bon ou mauvais? 13, 2, 3, 2, 0, 54. Maintenant, quelle est l'histoire la plus célèbre avec ce type Balaam? Est-ce que Balaam est bon ou mauvais? En fait, dans le livre des Nombres, Balaam était-il bon ou mauvais? Dans le livre de Chiffres, je vais vous suggérer qu'il est plutôt bon. En fait, il en donne 4. Oracles. Balaam a-t-il prophétisé 4 fois de la part de Dieu en disant exactement ce que Dieu a dit? Lui pour prophétiser. Oui, il est bon, mais certains d'entre vous ont dit, non, il est mauvais. La réponse est que Balaam est le Judas de l'Ancien Testament. Au fait, c'était Judas, bon ou mauvais? Eh bien, vous pourriez dire, Judas a trahi Jésus. Judas était mauvais. Mais attendez une minute, avant que Judas ne devienne mauvais, Judas était-il bon? Judas était-il l'un des 12 apôtres que Jésus a envoyés pour faire des miracles en son nom? Dans Matthieu 10, Judas a été envoyé et a proclamé l'évangile de Jésus-Christ et fait des miracles en le nom de Jésus. À propos, vous souvenez-vous quand Jésus a dit, l'un de vous est va me trahir? Ils regardèrent tous autour d'eux et est-ce que l'un d'entre eux soupçonnait Judas? Non, ils ne l'ont pas fait. Donc ce que je dis, c'est que Judas était l'un des 12 apôtres. Et puis il tourne mal. Balaam est très semblable à cela. Il est bon et puis il se retourne mauvais. Nous allons voir ce changement chez lui. Il est représenté à la fois comme un saint et comme un pécheur. Dans l'Ancien Testament, il est décrit comme plutôt bon. Laissez-moi vous lire quelques déclarations que Balaam fait dans les Nombres. Chapitre 22. Nombre 22, lui dit ceci, « Passez la nuit ici, leur dit Balaam. Et je vous rapporterai la réponse que le Seigneur me donne. » Jusqu'au verset 13. Le lendemain matin, Balaam se leva et dit au prince de Belik, « Retournez à votre propre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser partir avec toi. » Balaam est-il fidèle à ce que Dieu lui a dit? Oui, il l'est. Il n'ira pas. Ce qui se produit. Balak, le roi de Moab, envoie d'autres gars et ils viennent vers lui et lui demander de redescendre. Et le verset 18 dit ceci, « Mais Balaam leur répondit, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pouvais rien faire de grand ou de petit pour aller au-delà du commandement du Seigneur mon. » Machine translated by Google. 7. Dieu. Balaam est-il un adorateur de Yahweh? Il est sûr. Il dit, je ne peux même pas faire ça. Pour l'or ou pour l'argent. Soit dit en passant, cela crée ce qui sera la plus grande tension dans la vie de Balaam. C'est la plus grande tension, l'argent ou la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu ou partez. Après l'argent, ce sera la tension que Balaam ressentira. Il sera fidèle à la parole de Dieu, il donne 4 oracles que nous reviendrons. Maintenant, vous dites, attendez une minute, mais je pensais que Balaam était un méchant. Oui. C'est un méchant. Si vous regardez Jude dans le Nouveau Testament, verset 11. Balaam est répertorié parmi les grands apostats de tous les temps. Balaam était considéré comme le Benoît Arnold, Lee Harvey Oswald ou quelqu'un comme ça. Judas est un exemple classique de la Bible. Balaam est répertorié avec Judas et les méchants et la même chose se produit dans le livre de l'Apocalypse. Balaam est considéré comme un traître. C'est le mot que je vouloir, traître. Balaam est considéré comme un traître, quelqu'un qui a servi Dieu au début et puis s'est détourné. Dans le Nouveau Testament, il sera un méchant majeur. Est-ce que Balaam? Tu connais Dieu? Oui, il l'a fait. Nous avons ici une déclaration claire selon laquelle Balaam dit, Je ne dirai que ce que Yahvé, mon Dieu, me dit. Donc il connaissait Dieu, il ne l'était pas juif, mais il connaissait toujours Dieu. Et son nom? J'adore son prénom. Balaam, cela signifie « destructeur ». Donc, ce type descend, son nom signifie « destructeur ». Cela ressemble presque à un 3D. Jeu sur un ordinateur ou quelque chose comme ça. Maintenant, pendant que je dis que son nom est drôle, est-ce que tu réalises qu'ils ont en fait trouvé le nom de ce type gravé sur une pierre datant de 800 avant J.C. Cela vient d'un endroit appelé Derala, qui se trouve en Jordanie. C'est intéressant, les événements avec Balaam se produisent en Jordanie et ils ont trouvé une pierre avec Balaam. Nom dessus datant de 800 avant J.C. en Jordanie. Il a été trouvé en 1967 et traduit pour la première fois en 1976. Et ce assez récent. Maintenant, regardez ceci, c'est en fait une citation de ce marqueur, les malheurs du livre de Balaam, fils de Bieu. Par le Balaam, fils de Bieu, et il notre Balaam. Oui, il l'est. S'il disait simplement, Balaam. Il pourrait y avoir plus d'un Balaam, mais il est écrit, Balaam, fils de Bieu, et c'est notre gars. Un voyant divin, était-ce exactement qui il était? Il était un voyant divin. Machine translated by Google. 8. Les dieux vinrent vers lui la nuit et il eut une vision conforme à celle d'elle. Énonciation. Ils dirent à Balaam, fils de Bieu. Et cela continue. Et ce joli. Incroyable qu'il ait réellement des disques et que ce ne soit pas que des contes de fées. En d'autres termes, ce type a un âne qui parle, c'est devenu une légende qui est inventée, non. Le gars était irréel. Le gars est en fait sculpté comme étant réel à partir de 800. Colombie-Britannique, donc c'est assez incroyable. On n'obtient pas souvent ce genre de confirmation. Et c'est tout simplement spectaculaire. D'ailleurs, il a fallu attendre 1967 pour que ce soit le cas. Trouvé et à traduire en 1976. Le principal combat de Balaam est de savoir s'il va suivre la parole de Dieu ou s'il va y aller avec de l'argent. Cela va être sa tension. Et ce que ce sera. Certaines de nos tensions à différents moments de notre vie, si nous allons y aller. De l'argent ou servir le Seigneur. C'est une grande tension que beaucoup d'entre nous ont ressentie. Balaam et l'âne 20, 5, 5, 2, 6, 43. Maintenant le récit de l'âne, c'est un passage classique. Est-ce que quelqu'un? Tu te souviens de la tension? Dieu dit, d'accord, Balaam, tu peux aller avec eux. Alors Balaam les accompagna, et puis tout d'un coup, cet ange arriva avec ceci. Sabre laser, et est sur le point de lui arracher la tête. Vous dites, attends une minute. Mon Dieu, je croyais que tu avais dit qu'il pouvait partir et ensuite tu as essayé de le tuer. Que est-ce qu'il y a avec? Que? Dieu vous donne la permission. C'est comme un parent qui revient sur sa parole ou quelque chose. Que se passe-t-il? Je pense que ce qui se passe, c'est que Dieu a dit, Balaam. Tu peux y aller, mais quelle était la seule condition? Vous devez dire exactement ce que je te dire. Balaam s'est probablement dit dans sa tête, peut-être que je pourrais gagner de l'argent. Hors de cela. Dieu m'a dit de dire ceci, mais peut-être que je peux dire autre chose pour pouvoir faire un peu d'argent. Peut-être que je peux avoir mon gâteau et le manger aussi. Je pense que Balaam a joué avec ses idées et Dieu va l'arrêter dans son élan pour le prévenir. Encore une fois, tu ferais mieux de dire exactement ce que je te dis. Je pense donc que le récit de l'âne est là pour ralentir l'histoire et avertir Balaam de faire exactement ce que Dieu dit. Alors que se passait-il avec l'âne? Balaam se leva le matin et sellait son âne, ceci est tiré du chapitre 22, verset 21, et partit avec le Machine Translated by Google. 9. Prince de Moab. Mais Dieu était très en colère quand il partit, et l'ange du Seigneur se tenait sur la route pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son âne, et ses deux des domestiques étaient avec lui. Quand l'âne a vu. Maintenant, il y a un jeu de mots ici. Balaam est un prophète, que est-ce qu'un prophète appelé? Un prophète est appelé un voyant. Qui voit ici? Le voyant voit-il l'ange? Ou l'âne voit-il l'ange? Le voyant devrait voir l'ange, mais qui voit le ange? L'âne voit ce que le voyant ne voit pas, voyez-vous l'ironie là-dedans? Le voyant ne peut pas voir, mais l'âne voit. Il y a un jeu sur le mot, voyant. Lorsque l'âne vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin avec un l'épée à la main, elle quitta la route et se dirigea vers un champ. Balaam l'a battue pour remets-la sur la route. Alors l'ange du Seigneur se tenait sur un chemin étroit entre deux vignes. Au fait, les murs des vignes sont faits de quoi? Les rochers, ils font leurs murs avec des rochers et c'est un problème. Il y en a deux murs de vignes des deux côtés. Lorsque l'âne vit l'ange du Seigneur, elle pressait contre le mur, écrasant le pied de Balaam contre celui-ci. Alors il l'a encore battu. Alors l'ange du Seigneur s'avança et se tint dans un endroit étroit où il n'y avait aucune place pour tourner, ni à droite ni à gauche. Quand l'âne vit l'ange du Seigneur, elle se coucha sous Balaam, et il se mit en colère et la frappa avec son équipe. Alors que se passait-il? Le voyant ne peut pas voir, mais l'âne voit. Que est-ce que? Le voyant le fait-il? Le voyant prononce la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le voyant est un prophète. Il parle pour Dieu. Qui parle ici? Alors le Seigneur ouvrit la gueule de l'âne. Et elle dit à Balaam, que est-ce que je t'ai fait pour que tu me battes ces trois-là? Fois. Balaam répondit à l'âne, tu m'as ridiculisé. Si j'avais un l'épée dans ma main. Comprenez-vous l'ironie de ceci? Balaam dit, si j'avais une épée dans ma main. Qui a une épée dans la main? L'ange debout devant lui. Balaam dit, si j'avais une épée à la main, je te tuerais sur le champ. Est-ce que tu vous comprenez l'ironie? Cet ange avec une épée se tient juste là, et Balaam dit, si j'avais une épée à la main, je te tuerais tout de suite. Machine Translated by Google. 10. L'âne dit à Balaam, ne suis-je pas ton propre âne, que tu as toujours monté, jusqu'à ce jour? L'âne commence à raisonner avec Balaam. Et je. Avez-vous eu l'habitude de vous faire ça? Non, dit-il. Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Maintenant, le voyant peut voir. Et il vit l'ange du Seigneur debout sur la route, l'épée dégainée. Alors il s'inclina profondément et tomba face contre terre. Quelle question l'ange du Seigneur lui posait-il maintenant? C'est beau. Il y a tellement d'ironie. L'ange du Seigneur lui demanda, pourquoi as-tu battu ton l'âne ces trois fois? C'est la même question que lui a posée l'âne. Alors l'âne dit, pourquoi m'as-tu battu trois fois? Je viens de te sauver la vie. Alors l'ange dit, eh, Balaam, pourquoi as-tu battu ton âne ces trois-là fois? Au fait, l'ange se soucie-t-il des animaux? Est-ce que Dieu se soucie d'eux? Les animaux. Il faut parfois regarder le livre du Deutéronome, c'est vraiment intéressant avec le soin de Dieu pour les animaux. Ici, l'âne se fait battre et le l'ange dit, pourquoi as-tu battu ton âne ces trois fois? Je suis venu ici pour m'opposer à toi parce que ton chemin est imprudent devant moi. L'âne a vu moi et je me suis détourné ces trois fois. Si elle ne s'était pas détournée, je le ferais. Je t'aurais certainement tué maintenant, mais je l'aurais épargné. Balaam dit au Ange du Seigneur, j'ai péché. Et Balaam recule et il dit qu'il le fera. Faites seulement ce que Dieu dit. Balaam recule quand il voit cet ange prêt à couper sa tête. Voilà donc l'histoire de l'âne. Pouvez-vous voir toute l'ironie là-dedans? Et c'est une belle histoire à raconter aux enfants. Les enfants aiment parler des animaux, c'est donc un super histoire pour les enfants. C'est une belle histoire pour nous aussi parce qu'il lui dit d'être fidèle. L'âne voit donc plus que le voyant. Alors l'âne parle mieux que le prophète. Le récit est donc ralenti, avertissant Balaam de ne pas poursuivre. Argent, poursuivez le Seigneur. Les quatre oracles de F. Balaam, 1er oracle 26, 4 3 2 8, 20. Maintenant Balaam va donner quatre oracles ici. Que sont les oracles? Prophète. Donnez ces petits poèmes courts ou oracles où l'on prononce la parole de Dieu. Balaam. Machine translated by Google. 11. Va prononcer la parole de Dieu. Balak, roi de Moab, va demander à Balaam d'essayer. Monter et monter dans un endroit assez élevé pour maudire Israël. Ainsi Balak, roi de Moab, va essayer d'amener Balaam à maudire Israël et il va le tenter quatre fois. Donc, ce sont les quatre oracles. Le premier oracle commence au chapitre 23, verset 7, et vous obtenez cette déclaration, Balak m'a fait venir d'Aram, le roi de Moab de l'Est. Montagne. Viens, dit-il, maudit Jacob pour moi. Venez dénoncer Israël, et... Alors Balaam dit, comment puis-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? OMS. Des malédictions. Balaam maudit et il ou est ce Dieu qui a le pouvoir de malédiction. Balaam dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Qui peut maudire sinon Yahweh? Jéhovah est le seul à pouvoir maudire. Je ne peux pas maudire. Donc, fondamentalement, Balak, roi de Moab dit, je t'ai amené jusqu'ici et tu ne les maudiras pas pendant moi. Ainsi le premier oracle tombe, et Balaam ne maudira pas. Au lieu de maudissant Israël, il les bénit. Les quatre oracles de Jébalaam, deuxième oracle 28, 2036, 21. Balak, roi de Moab, déplace Balaam et le met dans une position différente. Et le place sur la montagne des espions, puis Balaam descend avec ceci. Déclaration. Il prononça cet oracle, « Lève-toi, Balak, et écoute. Écoute-moi, fils de Zip. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour change son esprit. Et ce qu'il parle et n'agit pas. Et ce qu'il promet et non accomplir. C'est un verset très classique que Dieu ne change pas, et en fait, si vous tu en veux un autre qui soit plutôt intéressant, tu vas à I Samuel, chapitre 15, verset 29 et ça dit. Celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne change pas d'avis. Car ce n'est pas un homme pour qu'il change d'avis. C'est I Samuel 15.29. Donc, vous avez ces deux versets qui disent que Dieu ne change pas. Cela soulève une question, n'avons-nous pas vu Dieu changer lorsqu'il a dit qu'il était va anéantir Israël, puis Moïse prie et Dieu cède. Alors comment vas-tu travailler avec ça? Comment faites-vous pour que Dieu ne change pas quand nous avons vu? Dieu change. Dieu a renoncé à ce qu'il allait faire. Comment les adaptez-vous? Ensemble? Ce que je veux vous suggérer, c'est que Dieu est le gardien de ses promesses. Si Dieu. Machine translated by Google. 12. Donne une promesse, il tiendra sa promesse. À qui Dieu a-t-il fait des promesses? A fait. Dieu a-t-il fait des promesses à Abraham? À Isaac? À Jacob? Avons-nous vu la promesse? Nous avons vu la promesse de la terre, de la semence et de la bénédiction. Il a été donné à Abraham et cela a été répété à Isaac et Jacob jusqu'aux Israélites. Ce était l'alliance abrahamique qu'il a conclue avec Abraham. Dieu tient ses promesses. Au fait, cette alliance abrahamique sera-t-elle remplie 1000 ans plus tard? Volonté. Dieu tient-il sa promesse pendant 1000 ans? 2000 ans? Oui. Dieu tient ses promesses, même si cela peut parfois prendre 2000 ans, il tient ses promesses. Le caractère de Dieu est aussi une autre chose qui ne change pas Dieu. Caractère, sa justice, sa sainteté, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce et sa colère. Le caractère de Dieu ne change pas. Est-ce que chaque fois que vous faites une promesse à quelqu'un, est-ce qu'il t'arrive parfois de faire des bêtises? Quand tu parles avec quelqu'un, vous ne faites que parler, mais vous ne faites pas aucune promesse. Au fait, y a-t-il des moments où vous faites des promesses? Quand? Serait-ce un moment important dans la vie d'une personne où elle ferait une grande promesse? A. Mariage, quand vous promettez, pour le meilleur ou pour le pire, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. Ce sont de grandes promesses. Les gens font de grandes promesses. Faire. Les gens tiennent toujours leurs promesses. Cela tend à poser problème. Dieu garde-t-il ses promesses? Alors est-ce qu'on promet toujours ou est-ce qu'on joue parfois juste et parle à des gens? Sommes-nous parfois sarcastiques? Est-ce qu'on dit parfois exactement le contraire de ce que nous voulons dire? Oui. Est-ce mal d'être sarcastique? Non, ce n'est pas le cas. Dieu sera-t-il sarcastique parfois? Est-ce que quelqu'un se souvient du prophète Élie? Élie est sarcastique. Les prophètes de Baal rebondissent et il y dit, « Hé, toi! Les gars, vous feriez mieux de crier plus fort. Baal est sur le pot et il ne vous entend pas crier. Plus fort, il ne peut pas vous entendre. Et ce qu'il y se moque d'eux. Il y croit il en Baal. Élie dans Hérois 18 ne croit pas en Baal. Il se moque d'eux. Donc, ce que je dis, c'est que nous avons toutes sortes de moyens pour communiquer. Pouvons-nous parfois simplement exprimer ce que nous ressentons? Maintenant, est-ce un promesse? Ainsi, nous pouvons exprimer nos sentiments, nous pouvons exprimer nos engagements et Machine Translated by Google. 13. Promesses, et nous pouvons exprimer des sarcasmes et des blagues. Il existe de nombreuses façons dont nous pouvons nous exprimer. Ce que je suggère, c'est que si nous pouvons nous exprimer de différentes manières, Dieu peut-il aussi s'exprimer de différentes manières. Quand Dieu te fait une promesse, il va tenir sa promesse. Mais Dieu peut aussi communiquer par d'autres moyens et tout ce qu'il dit n'est pas nécessairement une promesse. Parfois, il parle juste ou faire quelque chose de différent. Dieu est donc impliqué dans les possibilités créatrices. Parfois, il existe des possibilités, et parfois Dieu lui-même les explore. Possibilités. Il y a des déclarations conditionnelles avec Dieu. Dieu dit, « Si vous obéissez, moi, alors cela arrivera et si vous me désobéissez, alors cela arrivera. » Il y a, si c'est, avec Dieu. Il y a des déclarations conditionnelles avec Dieu. Par conséquent, l'avenir n'est pas entièrement verrouillé. Désormais, certaines choses du futur sont verrouillées. Jésus naîtra à Bethléem était fermé, Michée 5.2. Mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Enfermées et dépendent de la réaction ou de l'interaction d'une personne avec Dieu. Je veux. Éloignez-vous de ce problème de libre arbitre / prédestination. Au fait, est-il acceptable d'être en désaccord? Cette classe. La réponse est oui. Personne ne sait comment résoudre ce problème. J'ai donné. Comment j'y pense, mais vous pourriez y penser différemment, ce qui est totalement bien. Une fois que j'ai fini de penser que j'ai résolu le problème, je me rends compte de l'ampleur du problème. Imbécile je suis. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la pensée de Dieu. Je travaille avec les Écritures comme du mieux que je peux, et ce livre est tout ce que j'ai. Différentes personnes prennent des choses différentes. Positions et je ne dis pas que j'en sais plus que quiconque. Je suis juste. Essayant de lutter avec les différents passages. Il n'y a rien de mal à être en désaccord sur ce point. Certains d'entre vous sont issus de milieux presbytériens. Si je disais réformé, connaissez-vous le mot? C'est en fait comme ça que j'ai grandi, dans un tradition réformée calviniste. Quelqu'un est il ou elle ayant. Et ce que quelqu'un fait le salut. Armée. L'armée du salut et la tradition welléienne appartiennent davantage à des groupes de libre arbitre. Au cours de ma vie, j'ai en quelque sorte migré davantage du réformé vers le libre arbitre. Côté. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est simplement là où je suis, en grande partie d'origine. Machine translated by Google. 14. Mon étude des Écritures, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. Maintenant, pour changer totalement de sujet, je vais me concentrer sur les 4 oracles de Balaam. Ces sont vraiment chouettes, je pense. Balaam le mentionne dans le deuxième oracle, en vers 21. Balaam dit ceci, on ne voit aucun malheur chez Jacob, aucune misère chez Jacob. Israël. Le Seigneur leur Dieu est avec eux. Le cri du roi est parmi eux. Il fait un parallèle entre ces deux choses, il fait un parallèle, l'Éternel, leur Dieu, est avec eux. Avec le cri du roi est parmi eux. Qui est le roi d'Israël? Jéhovah, leur Dieu, est leur roi. Ainsi, dans ce passage, Balaam dit, je ne peux pas les maudire. Leur roi est Jéhovah. Moïse n'est pas leur roi. Jéhovah, Yahvé, est leur roi. C'est dans le deuxième oracle. Les 4 oracles de H. Balaam, troisième oracle 36, 2-2-3-8, 44. Balik reprend ensuite l'oracle 3. Il migre vers un endroit différent. Permettez-moi de lire un petit bout de l'oracle, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Parle. D'une certaine manière, y a-t-il l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament? Oui, l'Esprit de Dieu est venu sur Balaam et il prononça son oracle. Voici l'oracle de Balaam. Fils de Bie, l'oracle de celui dont les yeux voient clair, l'oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui a une vision du Tout-Puissant, qui se prosterne, dont les yeux sont ouverts. Alors il tombe par terre avec les yeux ouverts et puis il donne cette prophétie. C'est ce qu'on appelle une déclaration extatique. Le prophète va donner une prophétie de la part de Dieu, alors il tombe à terre, ses yeux sont ouverts, et il donne ce message de Dieu. C'est un peu comme, maintenant c'est joli. Bizarre, étant tué dans l'esprit. Autrefois, ils avaient cette chose, tué dans l'esprit, et c'est un peu comme ça. Le gars descend et il donne ça. Prophétie de Dieu. Remarquez maintenant ce qu'il dit au chapitre 24, verset 7 concernant le roi, de l'eau couleront de leur seau. Leur graine aura de l'eau en abondance. Leur roi le fera. Soit plus grand que Agag. Agag est un roi humain. Et il est en train de dire que Jéhovah, leur roi, sera-t-il plus grand qu'un roi humain? Ce serait une déclaration stupide, non? Bien sûr, Dieu est plus grand que Agag. Et ce que cela fait référence à un roi humain. Leur roi. Machine translated by Google. 15. Sera plus grand que Agag. Leur royaume sera exalté. Alors ici, dans ce troisième oracle, vous faites référence à un roi humain, un roi qui sera plus grand que le roi Agag. Donc ce que vous avez dans les deux oracles de Balaam est un seul oracle qui fait référence à Dieu comme à leur roi, et vous avez un autre oracle où il fait référence à un roi humain qui sera plus grand que Agag. Donc vous avez ces deux rois qui Balaam fait référence à. Il est 4 oracles de Balaam, 4e oracle 38, 4 5 4 1, 49. Devinez de quoi il va parler dans l'oracle 4.
Oui, un roi.
Dans oracle 4, il trouve un roi, et vérifiez cela au chapitre 24, verset 17, je vois.
Lui, mais pas maintenant.
Je le vois, mais pas de près.
Balaam dit il qu'il est un
prophète.
Je le vois, mais pas maintenant.
Je le vois, mais pas de près.
Une étoile va sortir
de Jacob.
Un sceptre sortira d'Israël.
Qui porte habituellement un sceptre?
Un roi.
Un sceptre est une métonymie pour le roi.
C'est une figure de style pour un roi.
Il dit,
un sceptre sortira d'Israël.
Il écrasera le front de Moab.
Mais remarquez ici les parallèles entre « une étoile sortira de Jacob »
et « un sceptre sortira d'Israël ».
Un sceptre et une étoile sont mis en parallèle.
Dans quel autre endroit dans la Bible?
Je pense que c'est le seul autre, en dehors de
Apocalypse, une étoile et un roi sont-ils associés?
Oui, à la naissance de Jésus.
Tu avais quoi?
S'est-il passé à la naissance de Jésus?
Les sages sont venus.
Les mages sont venus.
D'ailleurs, où
étaient les mages?
Ils venaient de Mésopotamie.
D'où venait Balaam?
Mésopotamie.
Comment les sages ont-ils su suivre cette étoile et se rendre à Jérusalem?
Et demander, où est celui qui est né roi des Juifs?
Est-il possible, maintenant?
C'est une conjecture totale de ma part, que les quatre de Balaam, qui est originaire de Mésopotamie.
Les oracles repartirent avec lui en Mésopotamie et les mages lisaient les
oracles de Balaam.
Ce type était-il encore un prophète célèbre 600 ans plus tard c'est à 800
B. C'est, pour que ses prophéties soient connues.
Les mages voient une étoile et s'avouent aller
Jérusalem pour chercher le roi des Juifs.
Alors ce que je me demande, c'est si ce passage
a été utilisé par les mages pour découvrir l'étoile qui les a conduits à un sceptre en Israël.
Et que cela fait référence à Jésus.
Et ce que cela lirait le roi divin et l'humain.
Machine translated by Google.
16.
Roi.
Tout cela n'est que conjecture.
Je le tiens à main ouverte, mais il semble faire
sens pour moi.
C'est une prophétie messianique vraiment cool sur Jésus, une étoile et un sceptre.
Je me demande simplement si c'est venu de Balaam pour obtenir les mages à la naissance du Christ.
J'y pourquoi Balaam est-il représenté de manière positive dans les nombres
41, 5, 0, 4, 8, 45.
Maintenant, que savons-nous de Balaam ici?
Dans les deux premiers oracles, j'étais
essayé de traiter la question du changement, puis nous sommes revenus au deuxième, troisième
et un quatrième oracle, cette fois en regardant ce qu'ils disent du roi.
D'ailleurs,
les oracles sont longs, environ 10 versets chacun et je n'ai pas lu tout cela.
Oracles.
Pourquoi Balaam est-il décrit de manière si positive dans le récit?
Balaam semble
donner même une prophétie messianique dans ses grands oracles.
Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a un contraste dans les textes.
Il y a un contraste
entre l'infidélité d'Israël et la fidélité de Balaam.
Balaam, un poète païen
ou prophète, est plus fidèle à Dieu qu'Israël.
Il y a donc un contraste entre
Balaam et Israël.
Le prophète païen est plus fidèle à Dieu à ce stade.
Pouvez-vous regarder différentes personnes de différentes manières?
Une personne est-elle totalement mauvaise?
Personnellement, je connais le type qui est le plus condamné à perpétuité dans l'Indiana.
Il détient le record de l'État de l'Indiana avec environ 11 condamnations à perpétuité.
J'appellerai
lui par son prénom, Dave.
C'est un de mes amis.
Dave est-il un homme totalement mauvais?
Dave a-t-il fait des choses vraiment très mauvaises?
Oui, il l'a fait.
Mais est-il totalement mauvais?
Non.
Il n'est pas.
Je connais plusieurs meurtriers, et beaucoup d'entre eux sont mes amis.
Oui.
Ils ont fait des choses vraiment mauvaises, mais il y a du bon là-dedans. Peux-tu voir du bien chez une mauvaise personne? D'un autre côté, pouvez-vous voir du mal chez une bonne personne? Qu'en est-il de tes parents, tes frères et tes sœurs? Connaissez-vous toutes les mauvaises choses concernant votre frères et sœurs? Ce que je dis, c'est que vous pouvez choisir la façon dont vous regardez un personne. L'histoire de Balaam est initialement racontée sous un jour positif, mais ensuite, l'histoire change. Au fait, lorsque vous vous mariez, votre femme est-elle bonne ou mauvaise? Et ton mari est bon ou mauvais? Ce que vous allez découvrir, c'est que votre mari ou machine translated by Google. 17. Votre femme a des choses très positives et des choses très négatives. Si tu concentrez-vous uniquement sur les choses positives, comme dans mon cas, vous penserez que votre femme est la personne la plus merveilleuse du monde. Quels sont les mauvais côtés? Elle n'a pas des mauvais côtés. Je dis que parce que ceci est enregistré sur cassette, j'ai été marié à elle depuis 36 ans et je sais qu'elle a des problèmes. Et ce que j'ai aussi le mien. Problème? Elle peut regarder mes problèmes et c'est tout ce qu'elle choisit de voir. Si vous continuez à regarder les problèmes tout le temps, que arrive-t-il à votre mariage? Il descend dans le tube. Elle est probablement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée depuis ma vie en dehors de Jésus-Christ. Ce que j'essaie de dire, c'est que voyez-vous le point de vue que vous prenez. Pensez à votre colocataire, pouvez-vous penser négativement ou positivement? Vous pouvez détruire la relation si vous ne voyez qu'un seul côté des choses. Voici ce que Balaam fit, dans Nombre 25, il est dit, pendant qu'Israël restait à Chittim, les hommes commencèrent à se livrer à l'immoralité sexuelle avec les femmes moabites qui les invitaient à des sacrifices à leur Dieu. Il ne s'agit donc pas seulement d'immoralité sexuelle, mais c'est aussi de l'immoralité dans le contexte du culte païen. C'est ce qu'ils ont fait en jours anciens, une partie du culte était l'immoralité. Le peuple mangeait et s'inclinait devant ses dieux. Alors Israël se joignit au culte du Béol de Péor. La colère du Seigneur s'est enflammée contre eux. Et maintenant, tout d'un coup, Israël va être maudit. Pourquoi Israël est-il maudit? Parce qu'ils ont péché. Voici comment cela s'est probablement passé. Comment Israël a-t-il été maudit? Balaam a refusé de maudire Israël lui-même. Il a refusé parce que Dieu lui a dit de dire exactement ce qu'il lui a dit. Cependant, Balaam savait-il que le seul moyen d'amener Israël était-il maudit de les amener à pécher? On pense donc que Balaam a dit aux Moabites de ils ont mis leurs femmes là-bas pour séduire les hommes dans le culte de ces autres dieux. Israël pécherait et Dieu les jugerait. Balaam a organisé cela. Est-ce vraiment mal? Oui, et Balaam a organisé cela. Vous voyez un peu cela au chapitre 25 et vous voyez la mort de Balaam au chapitre 31. Ces 6 chapitres plus tard, il est dit qu'ils ont tué tous ces gens et ils tuèrent également Balaam, fils de Béor, avec l'épée. Alors Israël attrape Balaam et il le tue. Au verset 16, il est dit, ce sont eux qui. Machine translated by Google. 18. Qui suivirent les conseils de Balaam et furent le moyen de détourner les Israélites du Seigneur dans ce qui est arrivé à Péor, de sorte qu'une plaie a frappé le Seigneur. Personne. Alors Balaam donna le conseil à ses femmes moabites de sortir et séduire. Balaam était le gars derrière ça. Balaam est une sorte de personnage de Judas. Et il va-t-il courir après l'argent ou la parole de Dieu? Il proclame la parole de Dieu, mais puis il s'en prend à cette affaire d'argent et propose ses conseils pour que Israël soit maudit. Dieu. Il les maudit parce qu'ils ont péché. Pourquoi Balaam est-il représenté de manière si positive?
à cause du contraste entre l'infidélité d'Israël et sa fidélité. Que est le livre des nombres? Qu'a introduction au Deutéronome comme renouvellement d'alliance 48, 4, 6, 5, 0, 36. Maintenant, nous allons sauter par-dessus et attraper le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome va être un livre très intéressant. Le livre de Le Deutéronome termine le Pentateuque ou la Torah, les cinq livres de Moïse. Le Deutéronome est un renouvellement d'alliance. Que est-ce qu'un renouvellement d'alliance? Dieu vient à Abraham et fait une alliance avec lui et dit, Abraham, tu as cru en moi, je te donnerai la terre, je te donnerai la semence. Votre graine se multipliera au fur et à mesure. Les étoiles dans le ciel et tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et ce alliance d'Abraham réitérée à Isaac et Jacob? C'est ce qu'on appelle l'alliance renouveau, lorsqu'il se transmet d'une génération à l'autre. Dans le Deutéronome, nous avons un passage générationnel entre Moïse et quoi? Moïse va monter sur le mont Nebo, ici, surplombant Jéricho, car Moïse ne peut pas entrer dans le terre promise. Au lieu de cela, Dieu va lui montrer tout le pays. Il ne peut pas traverser le Jourdain et il va mourir sur le mont Nebo. Dieu va l'enterrer et prend soin de lui. Moïse doit abandonner le pouvoir et le donner à Josué. Le livre du Deutéronome est ce passage du « bâton » de Moïse à Josué. Maintenant, Moïse va dire, « Josué, voici ce qui va arriver dans le futur. C'est quoi? La terre sera comme pour toi. Je ne peux pas y aller, mais Joshua, tu es. Va faire traverser la prochaine génération. Cela va être un renouvellement d'alliance. À propos, c'est le même genre de choses avec Élijah et Élisha. Tu en as deux. Machine translated by Google. 19. Les prophètes, le mentor et le mentoré. Thème majeur de L. Deutéronome, promesse de possession, épreuve de repos. 50, 3, 7, 5, 16. Je suis maintenant confronté au changement, je veux d'abord examiner le livre du Deutéronome et il a une signification presque existentielle quant à sa signification plus large. Jusqu'ici dans le Pentateuque, nous avons vu la promesse de Dieu. Dieu promet et promet. Il promet de Abraham, il promet à Isaac, il promet à Jacob et il promet à Moïse. Mais Abraham, Isaac et Jacob possèdent-ils? Abraham possédait un morceau de propriété sur toute la terre promise. C'était quoi? La grotte de Macpéla, où il a enterré sa femme Sarah. Le seul endroit qu'il ait jamais possédé. C'est en Israël qu'il a enterré sa femme. À ce jour, vous pouvez aller à Hébron. Et va à la grotte de Macpéla. Je ne le recommande pas. La dernière fois que j'y étais, deux femmes ont été abattues une demi-heure avant notre arrivée. Ce n'est pas vraiment un bien endroit où aller, surtout quand on ne sait pas ce que l'on fait. Mais Hébron a la grotte de Macpéla. C'est un endroit très connu même s'il est très dangereux. Aujourd'hui, test versus repos. Les Israélites étaient dans le désert et c'était un moment des tests. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de leadership, disait-il, pas de viande à manger. Donc Dieu les a testés dans le désert pendant 40 ans. Maintenant, quand ils entrent dans la promesse terre, leurs tests vont-ils être terminés? Les tests seront terminés et Dieu dit qu'il connaîtra le repos. Deutéronome regarde ce pays et dit, vous avez été mis à l'épreuve dans le désert pendant 40 ans. Vous entrez et vous allez trouver repos. Ce sera merveilleux pour vous les gars. Vous n'allez pas seulement obtenir le promesse, mais vous posséderez ce qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Transitoire versus permanence, vous êtes étudiant, de passage ou permanent? En fait, je regarde certains d'entre vous, et probablement, permanent. Ne serait-ce pas? Ça ressemble presque au purgatoire d'être enfermé à l'université pour le reste de sa vie. Ne serait-ce pas comme le jour de la marmotte? En fait, si vous voulez rester coincé. Machine translated by Google. 20. L'université pour le reste de ta vie, tu sais ce que tu fais. Devenez professeur et... C'est ce que j'ai fait. La vérité est que ces jours font partie des meilleurs jours de votre vie. Je sais que ça semble vraiment bizarre, mais ces jours d'université sont parmi les meilleurs jours de ta vie. Vous y repenserez et ces jours vous manqueront. Transitoire versus permanent. Avez-vous déjà voyagé, voyagé et voyagé? Cet été, mon fils vient de rentrer d'Afghanistan. Nous sommes partis voir son frère. Nous avons conduit la voiture pendant 33 heures jusqu'à Denver, Colorado. Après avoir fini à Denver, nous sommes allés jusqu'à Yellowstone et à travers l'Idaho et tout ça. Je n'ai même pas pu trouver une pomme de terre dans l'Idaho, à quel point est-ce malade? Nous sommes revenus à travers le Dakota du Sud, en passant par le Minnesota, le Wisconsin pour dire bonjour à oncle David. Maintenant, il a voyagé en Afghanistan et on lui a tiré dessus presque tous les jours. Il revient en Amérique et nous faisons ce voyage à travers le pays. À un certain point, voulait-il être de passage ou voulait-il simplement être à la maison? Au lieu de dormir dans un foxhole, voulait-il juste dormir dans son propre lit? Et ce, une grosse affaire? C'était un gros accord. Alors, là où nous sommes arrivés au Wisconsin, il a dit, « Papa, je suis juste fatigué de voyager. Je veux juste rentrer à la maison. Allons à la maison. » Nous avons donc roulé 26 heures d'affilée. Je le recommande. Ce que je dis, c'est avez-vous déjà dû voyager, voyager et voyager? Et tu aspires juste à un endroit où tu peux t'installer et être permanent là où les choses ne sont pas toujours en transition. Israël est donc dans le désert. Ils sont quoi? Ils sont errants dans le désert. Transitoire, transitoire, transitoire. Moïse a dit que la fugacité va être terminée et vous allez vous installer. Vous allez avoir votre propre propriété. Tu vas avoir ta propre maison, tu vas pouvoir s'installer sur le terrain, s'y installer et y être permanent et même y élever ta famille. Espace et lieu 55, 1759, 23. Maintenant, il y a un gars nommé Walter Brueggemann et il a écrit un livre appelé The Land et je lui ai volé ses concepts, mais je pense qu'ils sont vraiment importants. Brueggemann parle d'espace. Maintenant, que est-ce que l'espace? L'espace est comme le chaos. Une phrase que j'aime est ce que j'appelle la théorie WUD. Vous savez quoi? Machine translated by Google. 21. C'est WUD. Le monde à l'envers. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vécu ça? Où tout est sens dessus-dessous, tout est fou. Ce qui devrait être juste, c'est mal, et ce qui devrait être mal est bien, le monde est à l'envers. Le monde à l'envers, c'est l'espace. Chaos, caractère éphémère, espace, c'est là que tu ne le fais pas appartenir et vous voyagez à travers l'espace. Vous voyagez dans l'espace, mais vous ne le faites pas y appartenir. C'est l'espace. Le désert est l'espace. C'est un endroit difficile. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez de moyens de subsistance. C'est l'espace, c'est chaos. Vous passez de l'espace au lieu. Place, si je devais choisir un ou deux mots, on serait à la maison. Et ce que certains d'entre vous ont le sentiment d'être chez eux. Maison. Appartenance. La maison est un endroit où je peux être moi-même. Tout le monde me connaît tel que je suis bizarre comme tous sortent. Au fait, sont-ils tout bizarres aussi? Nous sommes tous bizarres. Ensemble? Nous savons que tout le monde est bizarre, mais nous sommes une famille et nous sommes à la maison. Nous y appartenons. Avez-vous déjà été dans des environnements où vous aviez l'impression de ne pas appartenir? C'est de l'espace, mais à la maison, vous pouvez vous détendre, vous pouvez être vous-même pour qui vous sont. Ils savent qui tu es. Tu n'es pas obligé de dire qui tu es, ils savent qui tu es. Ils vous connaissent et vous les connaissez. C'est bon, vous êtes tout bizarre, et vous êtes en quelque sorte dans ce truc ensemble. Alors cet endroit, ce sentiment d'être chez soi. Mon gendre qui a épousé ma fille, c'est pour ça qu'il est mon gendre. Son anniversaire approche en janvier. Le gars va avoir 41 ans, je ne peux pas. Crois-le. Quoi qu'il en soit, il est un peu plus âgé que ma fille, mais c'est vraiment un gars sympa. Il est venu de Taïwan en Amérique et sa famille a été toute rompue et sa famille est entièrement en Californie. Ils sont vraiment loin et le la famille a été brisée, le père, la mère et des choses comme ça. Il désire quoi? Il se rend compte maintenant qu'il est dans la quarantaine et qu'il a plus d'amis que vous ne pouvez le croire. Toi. Les gars ont Facebook, il a plus d'amis que vous ne pouvez le croire, plus que Facebook. Il a des tonnes d'amis, mais il a le sentiment que ce sont tous des amis. Les amis vont et viennent. Les amis vont et viennent, et il réalise, je veux famille. Mais il dit, ma famille est en Californie et ils sont tous séparés. Donc il machine translated by Google. 22. A en quelque sorte été adopté dans notre famille, donc il fait partie de notre famille maintenant. Notre. La famille est très, très cohésive, j'espère qu'il se sent comme un membre de notre famille. Eh. Il est membre. Oh, il s'est marié, oui, il l'a fait. Donc il fait partie de notre famille alors quand nous faisons des trucs. Nos enfants ont hâte de se retrouver. Mes deux fils tirent sur le wapiti. Tout de suite. Ils tirent sur Bambi. Avec la façon dont ils tirent, enfin, en fait, je ne devrais pas dire ça, mes fils sont tous deux des tireurs experts. Quoi qu'il en soit, ils ne l'ont pas été capables d'obtenir quoi que ce soit pour l'instant. Mais ce que je dis, c'est ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de qui appartiennent. Pouvez-vous vous reposer à la maison? Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous détendre et vous pouvez être toi-même. C'est donc la différence entre l'espace et le lieu. C'est le désert. C'est la terre promise. Quand ils entrent dans le terre promise, ils entrent en place, ce sentiment d'appartenance. Maintenant, ils peuvent trouver une maison ici. Ils n'errent plus. L'errance est partie, maintenant il peut créer un lieu permanent. L'impact de la question ou 59, 2, 4, 6, 2, 37. Cela soulève certaines choses. Le, où, vous habitez est-il important? Est-ce que le, la question, où, affecte votre vie? Agissez-vous de la même manière dans un Ancien Testament? Court comme on le fait dans un match de basket. Le, où, affecte-t-il votre façon d'agir? Est-ce que tu agissez-vous de la même manière lors d'un match de basketball que lorsque vous faites du shopping au centre commercial? Peut-être. L'endroit où vous êtes détermine la façon dont vous agissez. La question, où, vous façonne-t-elle? L'endroit où vous avez grandi vous affecte-t-il? Je me souviens que j'avais un élève qui s'appelait Zachary. C'était vraiment un enfant génial. Avant de prendre l'avion pour Israël, nous quittions la région de Chicago. Nous étions là dans l'Indiana et je suis venu à Chicago. Nous partions d'Oshaer pour aller à Israël va étudier en Israël pendant 3 semaines. Nous sommes allés au nord de Chicago pour choisir Zach, debout. Nous allions chercher Zach et c'était un enfant du centre-ville. Il a dit, j'ai de m'arrêter sur un trottoir avant de partir. Alors il a eu des fleurs et est allé au trottoir. Nous avons trouvé le trottoir et il a mis les fleurs sur le trottoir et je ne sais pas si vous savez ce que cela signifie. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'il y avait une fillette de 3 ans qui conduisait un tricycle et que des gangbangers sont montés à bord. Machine translated by Google. 23. Des deux côtés et cette fillette de 3 ans a été abattue. Ils mettent des fleurs sur le trottoir. Comme mémorial. Alors c'était comme, wow, c'est lourd. Nous allons en Israël, et nous avons déposé les fleurs. Zach est monté dans l'avion et s'est envolé pour Israël. Lorsqu'il s'est envolé pour Israël, il a passé le premier test là-bas, car il faut tester sur géographie biblique, et il a tout raté. Il avait entre 30 et 40 ans. J'apporte cet étudiant là-bas et il va échouer. Alors, finalement, je le prends à part et je dis, Zach, que est-ce qui se passe? Nous avons pour maîtriser cette histoire de notes ici, sinon vous allez exploser. Tout ça. Alors il m'a raconté l'histoire de cette fille qui a été abattue. Il a dit que cela lui rappelait toutes sortes de souvenirs. Quand Zach était petit, il était dans une maison et son frère était trafiquant de drogue. Il a dit que ses gars étaient cassés dans la maison et il a dû regarder son frère se faire tirer dessus. Voici donc un petit enfant regardant son frère aîné se faire tirer dessus. Il a dit quand ce petit, la fille est tombée, tout d'un coup son frère aîné est revenu. Il a interrogé. Pourriez-vous vous concentrer sur la géographie biblique lorsque tout cela reviendra? C'est totalement. Je l'ai juste époustouflé. Le « ou » de la vie de Zach l'a été affecté. Maintenant tu peux le nier et dire que tu ne veux jamais t'en souvenir. Encore. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Peux-tu oublier des trucs comme ça? Vous ne pouvez pas oublier cela. Vous devez intégrer ces souvenirs. Dans votre vie, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer et essayer de l'oublier. Donc la question, où, est une notion très importante. La Terre, non méritée 62, 3, 8, 6, 4, 0, 9. Travaillons maintenant avec la Terre. Je veux frapper différents couplets ici et nous y allons. À travers cela rapidement. Au fait, cette Terre s'appelle le quoi? La Terre promise. La terre d'Israël est appelée terre promise, évidemment parce que Dieu l'a promise à Abraham, Isaac, Jacob, etc. Dans Deutéronome chapitre 9, verset 4, il est dit, après. L'Éternel, ton Dieu, les a chassés devant toi, ne te dis pas, le Seigneur m'a amené ici pour prendre possession de cette terre à cause de mon justice. Dieu dit et Moïse leur dit, quand vous entrerez dans le Machine translated by Google. 24. La terre, ne pense pas que c'est parce que tu es sexy et que Dieu te donne la terre. Parce que tu es si bon. Non non non. Dieu ne vous donne pas la terre parce que tu es tellement juste. Ne pense jamais ça. Verset 4 suite, non, c'est sûr. Compte de la méchanceté de ces nations que le Seigneur va les chasser. Avant toi. Pourquoi Dieu va-t-il chasser les nations? À cause de leur la méchanceté. Et ce à cause de ta justice. Non, ce n'est pas à cause de la façon dont vous êtes bon, c'est parce qu'à quel point ils sont mauvais. Au fait, quand vous aurez lu le livre de Josué, Dieu a-t-il chassé les Cananéens de là? Était-ce brutal? Parfois. Dieu dit que c'était à cause de leur méchanceté. Cette culture est en train d'être jugée maintenant à cause de leur méchanceté. Ce n'est pas à cause de ta justice que vous obtenez la terre, c'est à cause de leur méchanceté. Il n'est pas basé sur votre mérite et il n'est pas basé sur vos efforts. La terre comme cadeau 64, 1065, 29. Si vous regardez le chapitre 6, le verset 10 est ce qui suit dit, « Quand le Seigneur, votre Dieu vous amène dans le pays qu'il a juré à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob pour te donner un pays avec des villes grandes et florissantes que tu n'as pas bâties. As-tu ? Tu vois le tour là-bas. Vous allez avoir de grandes villes, mais vous ne les avez pas construites. Villes. Suite au verset 11, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous. Tu n'as pas fourni, tu n'as pas creusé de puits, tu n'as pas creusé de vignes et d'oliviers. Plante alors quand vous mangez et que vous êtes rassasié, faites attention à ne pas oublier le Seigneur, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays de l'esclavage. Que est-ce qui va ? Quelle est leur promesse ? C'est une bonne terre. Dieu va leur donner des villes qu'ils n'ont pas eues. Construit, des oliveraies qu'ils n'ont pas plantées, des puits qu'ils n'ont pas creusés. Dieu va donner leur toutes ces bonnes choses en cadeau. Quand ils mangent et sont rassasiés, Dieu dit, faites attention à être rassasiés. Que tu n'oublies pas que tu viens d'où. Vous étiez esclaves en Égypte et moi. Je t'ai racheté d'Égypte. Les gens sont-ils censés se souvenir de leur esclavage? Leur servitude? Ils sont censés intégrer cela, le comprendre et ne jamais l'oublier. Leurs racines? Machine translated by Google. 25. Terrain comme promis 65-306708. C'était la terre qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. C'est la promesse. Atterrir. Dieu a promis cette terre à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, Dieu accomplit sa promesse. Ils reçoivent en réalité la promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob. C'est la grande arnaque de la vie. La promesse a été tenue et encore aux pères. Les pères ont-ils obtenu une partie de la terre? Non. Abraham a acheté le tombeau pour enterrer sa femme. Qui obtient la possession? OMS obtient réellement le terrain. Les descendants. Combien de tes parents te donnent? Quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Est-ce que certains d'entre vous ont ressenti cela? Tes parents t'ont donné des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais eues. Je suis allé à l'université, mon père et ma mère. À peine terminé ses études secondaires. Je suis allé à l'université et ils n'ont pas payé mes études. J'ai dû payer moi-même, mais ils m'ont soutenu et m'ont donné de la nourriture et un endroit où rester pendant que j'allais à l'université. Mais ce que je dis, c'est que bien souvent, les parents se sacrifient pour leurs enfants pour leur donner ce qu'ils n'ont jamais eu. Donc, vous obtenez cette chose ici où la promesse vient au père, mais les descendants prendre possession de la promesse. Au fait, quand les descendants l'auront compris, est-ce que les descendants l'apprécient autant que les parents qui le donnent? Non, les parents l'apprécient, mais les enfants le tiennent pour acquis. Ils oublient d'où ils viennent. Land comme participant à une tradition 67-09-68-18. Participer à une tradition, il y a une chose intergénérationnelle entre les parents et les enfants ici, cela se transmet. Cela s'appelle la tradition. Pas de wifi. Dites, tradition, que est ce qui vous vient à l'esprit? Le violoniste sur le toit. J'ai dit ceci avant, et je le répète. Lorsque vous obtenez votre diplôme du Gordon College, tout le monde ici qui va obtenir son diplôme du Gordon College, vous devez regarder The Fiddler sur le toit. Si vous ne le faites pas, le docteur Wilson sera là avec un de ses pistolets à air comprimé. Des choses. Quand vous irez chercher votre diplôme, il vous en donnera un. Donc, tu ferais mieux de regarder le violon sur le toit avant d'obtenir ton diplôme. Il sait qui est regardé et qui ne l'a pas fait. Je plaisante, mais je recommande le film, c'en est un. Machine translated by Google. 26. De ces films incroyablement bons. Tradition des parents aux enfants. et la tradition se transmet de génération en génération. D'ailleurs, dans notre culture, la tradition est elle généralement une chose négative. Nous voulons sortir de tradition. Ici, vous voyez que cela se transmet de génération en génération. La terre est un do qui se transmet. La terre comme cadeau 68, 1970, 30. Aujourd'hui, la terre est un cadeau. Nous l'avons déjà dit une dizaine de fois. La terre est un cadeau, Dieu donne la terre. Ils ne le méritent pas. Dieu leur donne la terre comme un cadeau. Ce do montre le choix de Dieu de les aimer. Laisse-moi juste lire le chapitre 7. Verset 7, le Seigneur ne vous a pas aimé et ne vous a pas choisi. Dieu. Choisir d'aimer quelqu'un. Pouvez-vous choisir d'aimer quelqu'un? L'amour est-il un choix? Non, c'est juste de la chimie. Je côtoie cette personne et... Non, non, non. L'amour est-il un choix? Ici, nous obtenons ceci, le Seigneur n'a pas placé son affection sur vous et n'a pas choisi. Toi parce que tu étais plus nombreux que les autres peuples, car tu étais le moins nombreux de tous les peuples. Mais c'est parce que le Seigneur vous a aimé et a tenu le serment qu'il avait juré. Vos ancêtres qu'il vous a fait sortir d'une main puissante et vous a racheté du pays de l'esclavage. Dieu t'a choisi et c'est ce qui est significatif et spécial. C'est une bonne terre. C'est une terre où coule le lait et le miel. Nous avons dit cette phrase, lait et miel. C'est une phrase vraiment célèbre. Le lait est probablement ce que sorte de lait. Lait de chèvre. Le miel est peut être du miel, mais c'est aussi peut être des dattes. Confiture écrasée. C'est une terre qui est remplie. C'est rempli de villes, c'est rempli de puits. Et il est rempli de jardins. Ils n'ont pas construit les villes, ils n'ont pas creusé les puits. Et ils n'ont pas planté les jardins. Dieu va leur donner cette terre remplie. La terre sera une terre satisfaisante. Quel sera le problème? Quand ils mangent et sont satisfaits, quel est leur problème? Ils vont oublier le Seigneur, leur Dieu et ça va être un gros problème. La terre est donc une terre satisfaisante et Moïse regarde là-bas. Pouvez-vous voir Moïse sur le mont Nebo en train de baver et de dire simplement, oh comme je. J'aimerais pouvoir aller dans le pays. Je vis dans le désert depuis 40 ans. Ce. Machine translated by Google. 27. Et là, c'est tous ces gens qui vont aller manger ces raisins. Des olives et des pizzas. Lieu où Dieu va mettre son nom 70, 3171, 54. Le chapitre 12 est un chapitre vraiment important. En fait, chapitre 12, vous pourriez parler pendant des heures. Dieu dit à Israël, pendant que Moïse est ici sur le mont Nebo. Moïse leur dit que Dieu va choisir une place en Israël et que Dieu va mettre son nom à cet endroit. Le chapitre 12, verset 5 est donc un classique sur ce sujet. Mais tout le chapitre 12 dit ceci, mais vous devez chercher le lieu où l'Éternel est votre. Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom pour son demeure. Où Dieu mettrait-il son nom en Israël et y demeurerait-il pour toujours? Quel endroit serait-ce? À l'origine, il était destiné à Shiloh. Le tabernacle monta jusqu'à Shiloh, mais est-ce là que c'est resté? Non, David va l'amener à Jérusalem. Jérusalem va désormais être la ville de David et la ville de notre Dieu. Dieu le fera mettre son nom à Jérusalem et le temple sera bâti à Jérusalem. Dieu mettra son nom là. Ce que vous avez dans Deutéronome 12.5, c'est la centralisation de le culte d'Israël préfigure ce qui va se passer ici avec Jérusalem en l'heure de David. Jérusalem jusqu'à ce jour est considérée comme une ville sainte et la ville du Seigneur. La présence est là. Problème majeur, oubliez 71, 5, 5, 74, 55. Maintenant des problèmes majeurs, un problème majeur pour Israël que Moïse met en garde. C'est essentiellement oublier d'où ils viennent. Où est venu Israël? Depuis. Ils étaient esclaves en Égypte et Moïse les avertit, n'oubliez pas d'où tu viens. Est-ce que certains d'entre vous ont des souvenirs d'où ils viennent? Tu aimes oublier. Je vous ai dit que mon fils était revenu d'Afghanistan. Quand il était dans Afghanistan, on lui tirait dessus tous les jours, il voyait des amis prendre des coups, certains de ses amis ont explosé. Ray, un de ses amis qu'il a entraîné, a été projeté à une centaine de mètres l'air et est tombé et a brisé presque tous les os de son corps. Il a vécu, le problème c'est que mon fils dit que quand il va lui parler, il dit, Ray, et Machine Translated by Google. 28. Ray n'est pas là, tu vois ce que je dis. Quand il s'est fait tirer dessus comme ça, un sang. Les pieds en l'air, quelque chose lui est arrivé à la tête et ce n'est plus Ray. Si tu es tombé de 100 pieds, cela fait 10 étages, et ce une longue distance pour tomber. Ray n'est plus Ray. Il a été vraiment cassé. Mais il est toujours en vie. Ce que je dis, c'est que mon fils est revenu et il racontait toutes ces histoires. Et nous disions, vous devez écrire toutes ces choses. En fait, j'ai le premier qu'il a écrit maintenant. Il en a fait un devoir d'anglais à la côte nord. Son commentaire était, papa, j'ai vu des choses qu'aucun être humain devrait jamais voir. Je veux l'oublier. Je ne veux plus jamais m'en souvenir, c'est juste. Je veux essayer de l'oublier. La question est, est-il bon d'oublier certaines choses? Je pense que c'est possible. Que est-ce que c'est? Le problème de l'oubli. Quand vous essayez d'oublier, est-ce toujours en vous? Quoi? Ce qui arrive, c'est que c'est intégré. Mais peut-on oublier des trucs comme ça? Tu ne peux pas. Oublie ça. Et ce qu'il apparaîtra à certains moments si vous ne l'intégrez pas. Ce que je suis. C'est que c'est vraiment bien de parler de ces choses et d'intégrer ces choses. Au lieu de rejeter et de tout oublier. Intégrez-les dans qui tu es. Et ce que cela fait partie de qui il est maintenant. Cela fait désormais partie de son histoire et il doit. Je le reconnais autant que c'est terrible. Je ne sais pas comment tu fais tout ça, mais je le sais. Cela ne sert à rien de le supprimer et de l'oublier. Il faut intégrer. Il nous avons tous certaines parties de notre passé que nous aimerions pouvoir oublier. Ce que je suis. Dire, c'est de faire attention à ne pas oublier. Se souvenir et intégrer sont probablement les chemins à parcourir, cela mènera à une personne plus mature. Si tu oublies, alors tu deviens réel. Il se passe des trucs bizarres. Arrêtons-nous de ça. V. Se souvenir 74, 5, 6, 7, 8, 23. Se souvenir, Dieu leur dit qu'ils doivent se souvenir de quoi? La maison de esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. N'oubliez pas que vous étiez des esclaves. C'est un mauvais mémoire pour eux, mais Dieu dit, souvenez-vous que vous étiez esclaves parce que j'ai délivré. Vous sortir de cet esclavage. Rappelez-vous, vous êtes sortis d'Égypte. Tu as traversé le rouge. Mais rappelez-vous la délivrance de Dieu avec une main puissante et un bras tendu. Machine Translated by Google. 29. Vous souvenez-vous de l'avoir lu plusieurs fois. Dieu a dit, je t'ai fait sortir. Avec une main puissante et un bras tendu. Dieu est le libérateur et Dieu est le endroit où ils devraient mettre leur foi et leur confiance. Dieu est celui qui les a rachetés. Hors d'Égypte et de leur esclavage et de leur servitude. Dieu leur dit de se souvenir. Au fait, est-ce que quelqu'un connaît le terme hébreu? Est-ce que quelqu'un s'appelle Zacharie ici? Zacharie ou Zachar signifie « se souvenir ». J'ai un fils Zacharie. Et il s'appelait ainsi et il a été fidèle à son nom. Ce souvenir est donc une base d'éloge. Vous souvenez-vous de choses? Où avez-vous rencontré Dieu et Dieu a fait des choses merveilleuses dans votre vie? Ce souvenir alors vous amène à revenir et à louer Dieu. La mémoire est donc une base pour louer Dieu. Il devait se rappeler qu'il avait été sorti d'Égypte, la main puissante, le. La mer rouge s'est divisée, Dieu a fourni la manne du ciel, Dieu les a amenés au mont Sinaï. Au mont Sinaï, Dieu, dans un certain sens, a épousé Israël. Au mont Sinaï, Dieu a donné à Israël son alliance et Dieu les a épousés pour ainsi dire. Puis Dieu les a emmenés sur un 4-0. Une année d'errance dans la nature, ce qui était un peu comme une lune de miel. Maintenant, Dieu est les emmenant dans le pays. Dieu ramène son épouse dans le pays qu'il leur a promis et il veut qu'ils s'en souviennent. Le souvenir est une base de louer. D'ailleurs, quand on entre dans le livre des psaumes, y a-t-il toutes sortes de des souvenirs de l'histoire d'Israël. Psaume 78, tout cela est un souvenir de ce que vous venez de lire. Car son amour inébranlable dure à toujours. Psaume 136. Encore une fois, il traverse l'histoire d'Israël, couplé à la fermeté de Dieu. L'amour dure pour toujours. Base de la louange, tout le livre des psaumes repose sur ce. Alors question de réflexion, où habites-tu? Et de quoi te souviens-tu? Votre mémoire devient-elle une base d'éloge? Comment vivez-vous le présence de Dieu dans le où vous vivez? Vivez-vous le présence de Dieu au Gordon College? Quand tu es à l'âne? Quand tu es dedans? Des endroits variés. Juste avant d'arriver en classe, je descendais quelques marches. Machine translated by Google. 30. Frost Hall et alors que je descendais les marches, un homme nommé Bruce est arrivé. Et alors que Bruce montait les marches, je me suis demandé, est-ce que cela a fait venir Dieu dans mon esprit pour pensez-vous à Bruce dans sa relation avec Dieu? Oui, Bruce a un cancer. Question, faire. Je dois prier pour lui. Je dois prier pour lui. Alors je vois Bruce et ça m'appelle au trône de Dieu et me dit, Dieu, sois miséricordieux. D'accord. Donc, expérimentez la présence de Dieu dans le, là, où vous vivez. W. Moses en tant qu'auteur du Deutéronome et de la théorie des sources du GD 78, 2481, 45. Maintenant, regardons Moïse dans l'écriture du Deutéronome. Nous allons relier ces deux choses dont nous avons parlé à propos de la terre en termes existentiels, en termes de sens. Cela va être plus académique maintenant. Moïse dans Deutéronome, qui a écrit le livre du Deutéronome. Nous avons vu que le Deutéronome est renouvellement de l'Alliance. Moïse passe le relais à Josué. L'Alliance est en cours. Renouvelé, Josué se voit rappeler les choses dont il est responsable et le engagement. Est-ce que quelqu'un se souvient de ceci, la vieille théorie GD? Le Deutéronome est grand dans cette théorie GD. La théorie du GD dit que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, mais à la place vous aviez un écrivain en J, qui aimait le nom Jéhovah, alors il a écrit avec Jéhovah ou Yahweh et c'est pourquoi ils l'ont appelé le document J. Il a écrit vers 850 avant J.C., soit environ 150 ans après l'époque de David. Donc c'est long. Après le départ de Moïse, 500 ans après Moïse. Après l'écrivain, J. Vous aviez le écrivain du E, et il a écrit la partie du Pentateuque. C'est ainsi que les critiques voient cela. La Bible a été assemblée. L'écrivain, eux, a écrit au nom d'Élohim. Il aimait le nom, Élohim. Il préférait ce nom, c'est pourquoi il appelle généralement Dieu par ce nom. Élohim. Il écrit vers 750 avant J.C. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, J, et, E, sont mis ensemble dans un document je, et ces deux documents sont des documents sources. Ensuite, le Deutéronome est autonome. Le Deutéronome date d'environ 620 ou 612 avant J.C. et c'est le souvenir de Josias. Le roi Josias trouve le livre des la loi dans le temple, mais tout le monde sait qu'il n'a pas trouvé le livre de la loi. Josias fit écrire le livre de la loi avec le nom de Moïse dessus. Voilà donc ce que ils appellent une fraude pieuse. En d'autres termes, Josias voulait faire une bonne réforme. Machine translated by Google. 31. Il voulait réformer et faire revenir les gens à Dieu et donc ce qu'il a fait était. Il a commis une fraude au nom de Moïse. Alors il dit, nous allons rédiger ce document. Nous allons le signer comme si c'était le document de Moïse. Nous allons trouver ce livre de la loi. Josias va faire la réforme en son temps et ramener les gens au Seigneur. C'est donc de là que vient le livre du Deutéronome. Ils appellent ça un fraude pieuse. Pouvez-vous voir ce que cela signifie? Josias a écrit ce livre de Deutéronome. Au fait, est-ce que la Bible dit cela? La Bible dit qui écrit le livre du Deutéronome? Moïse. Moïse est donc là, en train d'écrire et de parler. D'ailleurs, existe-t-il des preuves externes qui soutiennent ce GED? Y a-t-il des preuves archéologiques de l'une de ces sources? Pas un lambeau, en fait. Certaines des preuves archéologiques comme, P, l'écrivain sacerdotal, 450 avant J.C., nous avons trouvé que dans Nombre 6, nous avons un document sacerdotal datant de 600 à 700 avant J.C., 300 ans avant ça. Nous avons donc des preuves archéologiques qui contredisent cela. Théorie. C'est donc essentiellement ainsi que les critiques du 19e siècle et du 20e siècle ont dit que c'est ainsi que le Pentateuque a été construit et que ce n'est pas vraiment Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais ce sont ces pieuses fraudes qui ont écrit au nom de Moïse. X Deutéronome et traité Hittite 81, 4 6 9 2 12. Maintenant, devrions-nous être capables de faire la différence entre un document qui a été écrit en 620 avant J.C. et Moïse qui était de retour à peu près vers 1200 ou 1400 avant J.C. Là est d'environ 600 ou 800 ans entre les deux. Les types de documents changent-ils entre 600 et 800 années? Le format que vous utilisez change-t-il au cours de 800 ans? Eh bien, regarde ça, ils disent que Josias trouve le livre de la loi, et c'est ce que dit 2 Chroniques 34.33, Josias trouva le livre de la loi, le Deutéronome. C'est ce que dit la Bible, mais les critiques disent, non, Josias l'a écrit. Maintenant, les traités hittites. Parlons des traités. Nous avons des traités hittites. De quand datent les traités hittites? 1200 avant J.C. Et ce très proche du moment de Moïse. Si vous prenez une date tardive, c'est à l'époque même de Moïse. Alors les Hittites. Machine translated by Google. 32. Les traités, et les traités qui datent de cette période, datent de l'époque même de Moïse. Cette forme de traité comporte un préambule. Que est-ce qu'un préambule? Le préambule dit. Je m'appelle Lugalzigazi. Je suis le roi d'Aram et je suis le grand roi. Je règne de la mer à la mer et je suis le grand homme. Ainsi, le préambule indique qui est le roi et son domaine. Le préambule indique le nom du roi qui va rédiger ce document. La section suivante de ces traités est le prologue historique. Elle historique. Le prologue raconte les bienveillances du roi. Il dit, je suis le grand roi et je. Une fois, j'ai aidé ton père quand il avait besoin d'eau et je l'ai aidé. Un lion. Je l'ai attaqué et j'ai tué le lion. Il n'avait plus de nourriture et j'ai donné à manger à son enfant. Je suis donc le bon roi. Ainsi, le prologue historique raconte. Bienveillance du roi. Les choses bonnes, merveilleuses et gentilles que fait le roi. Par. D'ailleurs, quand le roi commence à vous dire à quel point il est gentil et bon, que est-ce qui s'en vient? Suivant. Et ce une configuration. Ceci est une configuration. Ce que vous obtenez ensuite, ce sont les stipulations. Le roi dit, et, parce que j'ai été vraiment gentil et bon avec toi, tu dois suivre ma loi. Quel est mon premier loi? Tu dois payer quoi? Impôt? Au fait, laissez-moi vous entendre dire ça, vous. Faut payer quoi? Impôt? Et au fait, allez-vous payer des impôts pour le reste de ta vie parce que nous avons une dette de 15 000 milliards de dollars sur ton dos? Je serai mort. Je suis sérieux, quand je vous regarde, les gars, et mes enfants, je regarde juste aimer. Les épaules s'affaissent. C'est bien que vous ne sachiez pas à quel point vous êtes en désordre. Sûr. C'est vraiment mauvais. Laisse-moi sortir d'ici. Stipulation, le roi veut quoi? Disposition. Payez-moi de l'argent, obéissez à mes lois et écoutez ma loi. Tu sais. Vous devez payer des péages lorsque vous empruntez l'autoroute, vous devez payer des taxes. Tu dois être obéissant, tu dois être loyal envers moi, tu dois faire tout ça. Des choses. Le roi a ses stipulations. Maintenant, quand vous avez une alliance de loi, devez-vous avoir des témoins? Quelle est l'alliance que les gens concluent aujourd'hui? Mariage. Dans un mariage, faut-il? Avez-vous des témoins du mariage? Oui. Il y a donc des témoins. C'est vraiment cool. Machine translated by Google. 33. 1. Dans la Bible, il y aura des témoins comme lorsque vous vous mariez. En fait, j'ai célébré un mariage lorsque mon fils s'est marié. Par conséquent, j'ai dû signer en tant que l'un des témoins en tant que ministre. Qui Dieu va-t-il prendre à témoin? Dieu prend à témoin le ciel et la terre. C'est vraiment une bonne chose, parce qu'il n'y a personne qui peut témoigner de Dieu, alors il prend le ciel et la terre à témoin contre lui, les montagnes et ce genre de choses. À la fin de l'alliance, il y a des bénédictions et des malédictions. Bénédiction si vous obéissez, et il maudit si vous désobéissez. Maintenant, nous voulons opérer un changement ici, ce sont les traités hittites. 1200 avant J.C., à peu près à l'époque de Moïse. Regardez ceci, Assyriens. Les traités datent de quoi? 700 avant J.C. Et ce très proche de l'époque de Josias. Les Assyriens étaient brutaux. Ils gouvernaient par la peur. Par exemple, vous avez saisi l'un de leurs villes, elles avaient une pyramide de crâne à l'entrée. Quel est le message non-verbal qui essayait de communiquer? Si vous leur désobéissez, où va votre tête? En haut. Au fait, est-ce une argumentation assez convaincante? Oui. J'ai été au British Museum. Si jamais tu arrives à Londres, tu veux y aller. Au British Museum. Vous entrez dans le British Museum, et la première chose à faire. Là, c'est incroyable, vous avez la pierre de Rosette. Pas sur un ordinateur Rosetta Stone, ils ont en fait la vraie pierre de Rosette. Si vous avancez plus loin et que vous voyez l'Empire Assyrien, vous voyez certaines choses de l'Empire Assyrien et vous voyez un pieu dressé comme ça et vous voyez un être humain mis sur le pieu. Ils se débattent et vous voyez le pieu enfoncé à travers eux. Question, c'est cool. Quel est le message que vous essayez de communiquer? Si vous nous dérangez, vous finissez. Quoi? Nous avons une petite participation, n'est-ce pas? Maintenant, tu es sur le bûcher. Comment tu? Sache que quand on parle à Jonas, Dieu dit, Jonas, je veux que tu ailles en Assyrie pour Ninive, va à Ninive, Jonas. Jonas dit quoi? Je ne pense pas. Quel est le message que Dieu lui dit? Dites aux habitants de Ninive de se repentir. Jonas dit ouais. C'est vrai, je ne veux pas ma tête dans la pile, Dieu. Je sors d'ici, je vais aller chercher du poisson et faites un tour. Le traité assyrien, voici comment se déroule le traité. Les deux traités ont. Machine translated by Google. 34. Différentes formes. Le traité assyrien date de l'époque de Josias, en 700, Josias était 620 avant J.C. C'est donc l'époque de Josias, c'est l'époque de Moïse. Les deux formes sont des formes différentes, les deux ont un préambule. Le prologue historique, le Hittite. Le traité comporte un prologue historique, racontant toutes les bienveillances du roi. Le traité assyrien n'a pas de prologue historique. Pourquoi l'assyrien? Le traité a-t-il un prologue historique? Parce qu'il ne parle pas des bienveillances qu'ils. Ils l'ont fait parce qu'ils terrorisaient les gens. Il n'y a donc pas de prologue historique dans le traité assyrien. Ensuite tu descends. Stipulations, les deux traités ont des stipulations, des lois que vous êtes censés élaborer pour le roi. Témoins, les deux traités. Avoir des témoins. Alors regardez ceci, bénédiction. Le traité hittite a des bénédictions. Mais le traité assyrien n'a aucune bénédiction. Au fait, est-ce que cela a du sens? Les Assyriens, c'est quoi? Ils sont brutaux. Ils disent, tu m'obéis, je ne vais pas. Pour te bénir. Vous méritez de m'obéir, vous devez juste m'obéir. Je ne vais pas. Sois béni. Mais ils ont quoi? Au lieu de cela, ils ont des malédictions. Tous deux ont. Malédiction. Maintenant, je vous demande ceci, si vous voulez dire si un traité a été rédigé en 1200 avant J.C. ou à 700 avant J.C., quels sont les deux endroits que vous allez chercher à distinguer? Ces documents. S'il y a un prologue historique, est-ce tôt ou tard? Tôt. Si c'est. Il manque un prologue historique, il est tard. S'il y a des bénédictions, il est tôt. S'il n'a pas bénédiction, il est tard. Le livre du Deutéronome, vérifiez ceci, le Deutéronome a-t-il un préambule? Oui. Dans le premier chapitre, Dieu s'identifie comme le grand roi. Dieu est le grand roi. Prologue historique, chapitre 1 à chapitre 3, Dieu dit. De toutes les choses bienveillantes qu'il a faites pour son peuple. Dieu énumère-t-il beaucoup de ces choses, les faisant sortir d'Égypte, leur fournissant la manne du ciel. Fournir des cailles à manger et des choses comme ça. Il y a donc un prologue historique. Son. Y a-t-il des stipulations dans le livre du Deutéronome? Il existe des dispositions générales, les 10 commandements, aime le Seigneur ton Dieu. Il existe également des stipulations spécifiques. Et cela correspond au traité hittite à 1, t. Au fait, il y a un gâché Gordon. Machine translated by Google. 35. Conwell Seminary, son nom est Meredith Klein, c'est lui qui a comparé ces deux formes de traité et a montré qu'ils sont totalement différents, qu'ils sont différents au niveau. Ces deux endroits au moins. Ils ont tous deux des témoins, le Deutéronome a des témoins. Question, le Deutéronome contient-il à la fois des bénédictions et des malédictions? Oui, c'est le cas, c'est le cas. Bénédictions et il a un prologue historique. C'est pourquoi le Deutéronome a-t-il été écrit? En 700 ou 1200 avant J.C. 1200 avant J.C. Pouvez-vous voir l'argumentation? Ces deux documents, les formes sont différentes dans le prologue historique et les bénédictions. Le Deutéronome a un prologue historique et la bénédiction, donc cela colle parfaitement avec les 1200 avant J.C. Documents qui datent de l'époque de Moïse et non de l'époque de Josias. Et ce, un argument solide. C'est un argument fort. Maintenant, question, les critiques seront-ils capables de détruire tout cela? Oui, parce que les critiques vont tout démonter, mais c'est un argument vraiment assez fort pour le Deutéronome date de l'époque de Moïse. Maintenant les stipulations générales et avec cela nous allons arrêter La prochaine fois, je t'apprendrai les 10 commandements, et vous n'aurez même pas à vous en soucier, vous connaîtrez le 10 commandements. Vous connaîtrez tous les 10 commandements comme ça. Alors la prochaine fois, nous serons partants pour les 10 commandements. Lisez Juges et Ruth pour la prochaine fois. Merci. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, littérature et littérature de l'Ancien Testament. Cours de théologie, leçon numéro 16, sur Balaam et le livre des Nombres et le renouvellement de l'Alliance et les concepts fonciers dans le livre du Deutéronome. Transcrit par Joel Perkins. Brut édité par Ted Hildebrandt II.